gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Il demeure intimement lié à cette folle aventure que fut l'émission Surprise, Surprise. Celui qui servait souvent d'appât sans jamais en être la vedette. Néanmoins, cela lui permit de rencontrer plusieurs personnalités, celles qui devenaient les célèbres victimes, tant au Québec qu'en France, en Belgique et même aux États-Unis. Et privilège peu commun, cela lui a aussi permis d'être connu et reconnu partout sur la planète francophone, si on rajoute sa participation aux séries Les Arnaqueurs et Juste pour rire les gags. Avec nous aujourd'hui, Jean-Pierre Allary.
Rebonjour.
Rebonjour, reconnu à travers le monde sans jamais être vraiment connu.
Oui, effectivement, mais c'était ça. Plus j'étais connu et plus ça pouvait mettre en péril les gags, parce que bon, se faire reconnaître, surtout les gags de Surprise, Surprise, c'était vraiment très onéreux de monter tous ces gags-là. Alors donc, il ne fallait pas se faire reconnaître, mais il y avait toujours moyen de moyenner. Vous savez, je dis toujours comme exemple, les gens me disent « Ah oui, mais tu ne me pogneras pas. » Tu sais, des fois, il y a des gens qui t'arrêtent sur les rues et ils disent ça. Quand un policier, avec une voiture de police, avec son fusil et tout, qui t'arrête, est-ce que tu commences à le berner puis à lui faire des gags? Non. Tu sors ton permis de conduire, puis tu dis, OK, j'ai peut-être vu, ce gars-là était peut-être à mon collège, mais je prends pas de chance. Alors donc, on dit, l'habit fait pas le moine, mais dans mon cas, l'habit faisait le moine.
Mais au-delà de tout cela, n'était-ce pas difficile que de travailler avec une reconnaissance au plan de la notoriété de l'émission, mais avec presque pas de reconnaissance pour soi, parce que vous étiez comme un être anonyme?
Oui, mais en même temps, on participait à quelque chose d'extraordinaire. Cette émission-là, Surprise, Surprise,
ça a été... Donc, travail d'équipe important.
Tout à fait, très important. Et aussi, c'est la première émission de télévision qui a été exportée ailleurs, qui a été vendue en France. Ensuite, a suivi Gonne-fille et puis, bon, les autres qu'on connaît, mais c'était la première fois. Ceci dit, en France, vous savez que le côté notoriété, le côté vedettariat est beaucoup plus poussé qu'ici. Alors donc, là-bas, c'était un peu fou. Ici, oui, les gens nous connaissaient et tout ça, mais là-bas, je dois vous dire qu'après 2-3 ans de Surprise, Surprise, là, Marcel et moi, on se faisait courir dans la rue par des gens là, pour des autographes et tout ça. Alors, il y avait une dimension, mais ça nous permettait tout de même de continuer notre boulot. Parce que en France, justement, à cause de cette hiérarchie, on ne peut pas s'attaquer à une vedette. Alors donc, la vedette, elle, qui normalement ne se fait pas attaquer, si ce n'est par un gag, par un quidam, se dit, ben, comme habituellement, on ne ferait pas ça. Ça veut dire que c'est vrai, act of God. Donc, ils croyaient beaucoup plus. Ils étaient, comment dire, on pouvait les piéger comme ça. Facilement parce que ça se pouvait pas. On ne peut pas toucher à des intouchables en France.
Et on n'a pas idée de la préparation que cela nécessite.
Ah oui, oui, beaucoup. Il y a des gags, je dois vous dire, des scénarios qui étaient préparés des mois d'avance en envoyant des lettres officielles gouvernementales avec le complice, en faisant en sorte que tout ça n'était pas tourné, mais en faisant en sorte d'établir, si vous voulez, on disait toujours une partance de scénario pour établir la crédibilité. Et quand arrivait le gag tourné en lui-même, qui pouvait durer des fois une heure et demie, mais qui était condensé en un 6-7 minutes, là, les gens étaient vraiment dedans parce qu'il avait été préparé d'avance.
Quelle empreinte a laissé sur vous Marcel Béliveau?
Écoutez, moi, j'ai connu Marcel Béliveau pauvre comme la gale. Je l'ai connu par la suite très riche. Je l'ai reconnu ensuite pauvre. C'est un gars qui aimait les gens, qui ne se prenait pas pour un autre et qui avait en tête de faire passer ses idées. Il disait, si tu as une idée d'émission, Jean-Pierre, là, va jusqu'au bout, tu es capable de le faire. Et ce gars-là m'a appris beaucoup au niveau aussi, vous savez qu'il a été énormément malade, il y a eu plusieurs cancers, plusieurs crises cardiaques, il a toujours passé à travers de ça. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas apitoyé sur son sort, il ne s'est pas battu, mais il continuait à faire sa vie.
C'est curieux parce que vous parlez de ce jeu de balançoire entre mm-hmm. la richesse et la pauvreté mm-hmm. et vous nous proposez comme première pièce ce poème de Rudebeuf mis en musique par Léo Ferré.
Tout à fait.
Mais interprété par Hugo Frey parce que pour vous, ça a une connotation très spéciale.
Oui. Écoutez, ça, c'est pauvre Rudebeuf d'Hugo Frey, ça a été la chanson sur laquelle j'ai pleuré mon premier amour de collège. Une jeune fille que je regardais de loin, que je parlais un petit peu à peine, mais que je n'osais pas. Et ce qui est fantastique, c'est que plusieurs années après, quand je faisais Surprise, Surprise en France, j'ai piégé Hugo Frey. Il faisait froid, c'était le matin de bonne heure. Après la fin du gag, il me dit « Ben, venez, on va prendre un café chez moi. » Alors, j'étais chez lui, je regardais Hugo Frey, et là, je lui ai dit « Écoutez, j'ai pleuré ma première peine d'amour sur une de tes chansons. » Il trouvait ça très rigolo. Alors, c'était vraiment fantastique de retrouver cette ambiance-là et de rencontrer des gens que j'ai adulés quand j'étais jeune.
Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenus, et tant aimés. Ils ont été trop clairsemés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort. Ce sont amis que vent emporte, et ils vantaient devant ma porte les emportables. Avec le temps qu'arbre des feuilles, quand il ne reste en branche feuille, qu'il n'aille à terre. Que vous raconte comment je me suis mis à honte, en quelle manière. Que sont mes amis devenus, que j'avais de si près tenu. Je crois le vent les a hantés. L'amour est mort. Le mal ne sait pas se venir. Tout ce qui m'était à venir m'est à venir. Que sont mes amis devenus, que j'aurais de si près tenu, et tant aimé. Ils ont été trop consumés, je crois le vent les a ôtés. L'amour est mort.
Alors c'était Pauvre Rudebeuf, interprété par Hugo Frey, qui a fait pleurer notre invité, Jean-Pierre Alary, peine d'amour, peine de jeunesse. Et ici, chez nous, il y avait Jean-Pierre Ferland.
Oui. Jean-Pierre Ferland, un des premiers contacts que j'ai eu avec Jean-Pierre Ferland, c'était pas comme bien des gens, l'album jaune, c'était bien avant. Au collège des eudistes, avec des amis, on a convaincu les pères de prendre un local qui était en haut dans les combles du collège, qui était poussiéreux avec... C'était un débarras. Et on a demandé au père, on a dit, nous, on veut faire une boîte à... Pas une boîte à chansons, on appelait ça le grenier aux chansonniers. C'était l'endroit où les jeunes arrivaient avec leur lunch. Mm-hmm. On écoutait des chansons de chansonniers québécois Et on avait imprimé à la Gestetner, on avait imprimé les paroles et on étudiait ces paroles-là. On philosophait là-dessus, on parlait de bon. Et avant de Massagir, qui est une chanson de Jean-Pierre Ferland, ça a été la première chanson qu'on a fait jouer au grenier, au chansonnier. Et ça a duré quelques mois là, au collège.
Avant de m'assagir, avant de jeter l'encre, de ménager mon cœur, de couver ma santé, avant de raconter mes souvenirs à l'encre, de vouloir sans pouvoir, de compter mes lauriers, avant cette saison, avant cette retraite, je veux sauter les ponts, les murs et les rebords, je veux briser les rangs, les cadres et les fenêtres, je veux mourir ma vie et non vivre ma mort. Je veux vivre en mon temps, saboter les coutumes, piller les conventions, sabrer les règlements, avant ce coup de vieux, avant ce mauvais rhume qui tuera mes envies et mes 32 dents. Et si je le pouvais, je ferais mieux encore. Je me dédoublerais pour vivre comme il faut le jour, pour ce qu'il est la vie, pour ce qu'elle vaut. Ça c'est mourir sa vie et non vivre sa mort. Je ne veux rien savoir, je ne veux rien comprendre. Je veux recommencer, je veux boire, je veux prendre. Il sera toujours temps, et jamais assez tard, d'accrocher ses patins, d'éteindre son regard. Je ne veux pas survivre, je ne veux pas subir. Je veux prendre mon temps, me trouver, m'affranchir, me tromper de bateau, de pays ou de port, et bien mourir ma vie, et non vivre ma mort. Mais au premier détour, à la première peine, je me mets à gémir, à pleurer sur mon sort, à penser à plus tard, à calculer mes scènes, et à vivre ma vie, et à vivre ma mort. Je cherche votre cou, je vous prends par la taille, on se fait si petit, petit, quand on a peur. Je ne suis plus géant, je ne suis plus canaille, je couve ma santé, je ménage mon cœur. Et puis je me reprends, et puis je me répète, qu'avant cette saison, avant cette retraite, il faut sauter les ponts, les murs et les rebords, il faut vivre sa vie et non vivre sa mort. Et pendant ce temps-là, le printemps se dégivre, le jour fait ses journées, la nuit fait s'éveiller. C'est à recommencer que l'on apprend à vivre, que ce soit vrai ou pas, moi, j'y crois.
Ces années de collège, Jean-Pierre Allary, ont été des années fastes au plan de la création de l'imaginaire. Est-ce que ça a été pour vous une période importante où on se construit, où on apprend à vivre et à peut-être mettre les premiers blocs de la création des rêves que l'on peut avoir?
Oui, parce que c'est l'adolescence. Et donc, l'adolescence, c'est important. C'est là où, comme vous dites, où on se construit et on se projette dans l'avenir et on se dit, bon, ben, qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là qu'on découvre plein de choses. On découvre l'amitié, on découvre... Moi, je dois beaucoup aux périodistes. Je dois beaucoup dans le sens que nous étions encadrés. Il y avait une discipline, oui, mais ça a toujours été fait dans le respect.
Mais c'était très rigide, le collège des UDIS, non?
Oui, mais c'était assez, comme c'était un externat, donc c'était un petit peu plus libéral. Ils étaient très forts sur le sport également, sur la culture. On nous encadrait, mais on nous éduquait et on nous élevait en même temps. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est que lorsqu'on quittait, c'était pas terminé le collège, là. Bien entendu, on étudiait tout ça, mais on revenait. Mais dans les heures où il n'y avait pas de cours académiques, on vivait une vie de collège qui perdurait, je me rappelle fort bien, avec des amis, être parti avec le père Lemieux, faire des fins de semaine liturgiques, des camps de liturgie. Et on perpétuait donc cette amitié-là, on perpétuait la vie de collège et cet encadrement-là qui était très formateur.
Une liberté, mais dans un cadre défini.
Oui. Oui, mais écoutez, Armand, je vais vous dire une chose. Je pense que c'était, en tout cas pour moi, c'était une époque où c'était important de l'avoir. Au point où mes deux fils, Vincent et Benoît, je les ai envoyés faire leurs cours au même collège. Bon, ça s'est appelé par après, ça s'appelle actuellement le collège Jean-Eudes, parce que c'est plus les pères, bien entendu, qui sont là.
Ça s'est laïcisé.
Ça s'est laïcisé, mais ils ont gardé cet encadrement-là.
Je vous dis cela parce que de mon côté, je suis allé à Grasset en externat également. À l'époque, c'était les Sulpiciens à Grasset.
On vous a battu au football.
Et c'est parti. Mais faudrait pas revenir sur le ballon à glace, par contre, là où on était meilleur que vous.
Oui, ça, c'est vrai.
Mais toujours est-il que ce sont, pour moi, les plus belles années aussi, où vous avez beaucoup évoqué l'amitié, où on apprend à construire des liens solides dans le respect et dans la découverte aussi du monde dans lequel nous aurons à évoluer. Et c'est peut-être formidable. Quand on parle d'amitié, parce que vous l'avez beaucoup mentionné la semaine dernière, vous nous en avez parlé il y a quelques minutes encore, c'est pour vous une valeur qui est comme essentielle. C'est comme une source de vie.
Tout à fait. Je pense que l'amitié, j'allais dire l'amitié vraie, là, les vraies amitiés, non pas juste des connaissances, là, ça te dure jusqu'à la fin de ta vie. Et même que ça peut même dépasser certaines amours qui malheureusement meurent.
Alors, c'est une belle occasion d'entendre la musique presque nouvel âge que vous nous proposez, la musique de chaque petit pas de Bruce Beckvar.
Oui, tout à fait.
Mais je vous demande d'apporter une attention particulière parce que lorsqu'il est question d'amitié, il se pourrait que sur cette musique, il y ait quelque chose de spécial.
Merci de me donner l'occasion de parler de Jean-Pierre Alary, parce que Alary, pour moi, c'est un communicateur persuasif, sans pareil, il y a un côté subtil qu'on rencontre pas souvent à la radio. Et pourquoi je vous parle de lui à la radio? Parce qu'on le connaît, bien sûr, par la télévision. C'est là, avec surprise. Faut dire qu'avec Béliveau avait trouvé le bonhomme qu'il lui fallait pour pouvoir donc orchestrer toutes ces émissions qu'on a pu voir ici à la télévision au Québec. Mais il faut rappeler aussi qu'en France, moi je vous raconte une anecdote. Un jour, je me baladais dans le vieux Québec avec Jean-Pierre Alary. Et c'est là que j'ai compris. D'abord, c'est impossible de marcher dans la rue ou d'aller même dans un resto sans que les gens ne vous regardent pas. Et bien sûr, les gens, c'était pas moi qui les intéressais, c'était Jean-Pierre Alary. C'est tout un personnage. Et puis, en sortant dans le Vieux-Québec, sur la terrasse du Frein, là, je voyais des touristes français vraiment courir après lui. C'était vraiment l'animateur vedette. On courait après lui comme si c'était d'ailleurs Michel Drucker. Je suis certain qu'il fait partie de la catégorie de gens comme ça pour qui les Français disaient, écoute, c'est vraiment une star. Puis c'est sûr que Jean-Pierre, avec toute la notoriété qu'il a eue à la télévision, ça, des gens oublient que la radio, Jean-Pierre Alary, c'est un gars de radio. Alors, bon, il nous préparait. C'est un gars qui prépare des surprises, mais des surprises de son. Là, ça n'a rien à voir avec jouer des tours et tout ça. C'est un gars qui a vraiment cette culture-là, sans pareil, parce que ça court pas les rues, les gens avec qui on peut apprécier. Quand on travaille à la radio, on aime ça, des gens qui aiment le son. Pas juste se faire valoir avec qu'ils ont à raconter sur tel bouquin qu'ils ont vu, qu'ils ont adoré, tel film qu'ils ont aimé ou détesté. Non. Jean-Pierre, c'est un gars de son. Il travaille avec de la musique. Il travaille avec des animateurs qui viennent tour à tour alimenter des émissions. Et c'est pour ça que quand on a de la culture du son comme lui, moi, quand j'ai travaillé à CKMF notamment, avec lui, eh bien, quand je faisais l'amour du son, j'avais en face de moi un gars qui avait vraiment l'amour du son. Lui, il savait ce que c'était la musique, il savait ce que c'était les indicatifs, les thèmes d'émission et tout le reste. Puis quand on avait besoin de production, qui on allait voir? Jean-Pierre Alary, qui était toujours disponible là, puis qui possédait la façon de reconnaître à un moment donné que tu t'en allais dans telle direction. Eh bien, avec lui, ça rendait l'émission meilleure et puis ça faisait une radio agréable à écouter. Écoutez-moi, ma recommandation que je ferais à Radio VM, c'est laissez pas partir ce gars-là sans lui faire une proposition, quitte à ce qu'il soit bénévole ou autre, mais c'est un gars de radio exceptionnel, Jean-Pierre Alary.
Oh, quel phénomène! Alors, premièrement, écoutez, Monsieur Dubois, vous pouvez témoigner, je suis rouge, j'ai chaud. Quel hommage de Trahan, et surtout parce que c'est de Trahan. Premièrement, un ami. On dit Trahan parce que dans le milieu, et je pense que votre collègue Serge Plaisance aussi est au courant, on dit Trahan parce que vraiment, c'est une sommité en radio. Michel, à la radio,
Je le confirme.
À inventer la radio, on n'a qu'à penser à LS Radio à Lévis. Il a fait Radio Soleil aussi. Il a fait des choses extraordinaires. Et quand on a la chance de travailler avec cet homme-là, on apprend énormément sur le boulot. On apprend sur le respect de ce métier de la radio.
Et de le connaître, Jean-Pierre, et si bien, vous me permettez, c'est presque un privilège.
Tout à fait.
C'est
tout
un être empreint d'une grande générosité. Quand j'ai mentionné à Michel que je vous recevrais, Jean-Pierre, il était quelque part de l'autre côté de la boule, sous le chaud soleil près de l'Australie, à Bali, je crois.
Il était à Bali, oui, c'est vrai.
Et spontanément, il m'a dit, bon, je m'en vais sur la plage. Ici, il faisait peut-être moins 10, moins 12. Chez lui, il faisait plus 25 ou plus 30. Et pour Jean-Pierre, absolument, dès mon retour, je vais t'appeler. Et finalement, il nous a fait ce petit enregistrement. Merci beaucoup, Michel Trahan.
Oui, merci infiniment. Et vous savez, Trahan est l'exemple parfait de ces amitiés qui perdurent. Je l'ai connu à CKMF en 73, et puis on se voit encore là, avec toute la vieille gang, Anita Barrière, Anne Malo, tout ça. On est restés des amis encore, puis il est tellement fou, Trahan.
Alors, pour Trahan, on va l'appeler Trahan,
ouais.
Et pour vous, Jean-Pierre, comme on a joué un peu à Colin Maillard pour essayer d'avoir cet hommage, voici donc Colin Maillard, interprété par Hugo Pancos et Claudette Lagacé. Moi, là, c'est une chanson que j'adore.
C'est sûrement le vent qui m'appelle, qui me pousse et m'entraîne à quelques rendez-vous. Moi, j'ai perdu les guides et ma mémoire est vide. Moi, je vais n'importe où, je n'avais qu'une image et j'ai perdu la page. On aura dû s'en savoir, se tromper de trottoir pour prendre une autre rue comme ces milliers de gens qui passent au second plan et passent inaperçus, leurs silhouettes sombres dans un théâtre d'ombre. On joue à Colin Maillard, le destin. J'ai beau te lancer des mots, comme les murs sont trop hauts, ils retombent en éclats. Il y a des murs de brouillard, tressés comme des remparts. Et toi, tu n'entends pas, tous les mots que j'envoie me restent sur les bras. Mais on ne peut pas changer d'histoire, comme on change de trottoir. Pour prendre une autre rue, faut pas défier. Il sera toujours plus fort, puisqu'il a tout prévu. Il a mis ses dessins dans les lignes de nos mains. On joue à Colin Maillard, le destin nous fait comme un foulard, comme un Colin Maillard, les yeux bandés par le hasard. Les autres te retiennent à d'autres rendez-vous. Si t'as perdu les guides, si ta mémoire est vide et le reste un peu flou, s'il y a tant de détours et de murs entre nous, faut bien jouer jusqu'au bout, rendez-vous n'importe où. On joue à Colin Maillard, le destin. Le destin nous fait comme un foulard, comme un Colin Maillard. Un
Notre invité, Jean-Pierre Allary, qui est encore sous le coup de l'émotion depuis qu'il a entendu parler Michel Tran, ça a été une belle période de votre vie, ces années de radio.
Oui, tout à fait.
Vous
oui.
avez mentionné, pendant que nous écoutions la chanson, vous me parliez d'Anita Barrière, de oui. Reine Malo.
Reine Malo, Céline Schneider, des amis que j'ai rencontrés là et qu'on se voit encore. Francine Blais, qui est une grande amie de une femme de radio également, qui fait de la télévision maintenant, qui travaille en télévision. Alors, c'est des amitiés qui... vous savez, il y a des gens qu'on rencontre et puis ça clique naturellement. Et ça coule tellement bien que tu ne veux pas que ça arrête de couler.
Parce que ce sont des gens authentiques.
Oui, ça c'est vrai. Oui.
On va terminer cette première partie d'émission parce que vous avez un côté bouffon. Vous avez été le clown de service. Et je le dis sans être péjoratif, là, loin de là, puisque Trahan nous disait que vous étiez plus connu que Drucker à Québec.
Ben, écoutez, je vais vous dire une chose là, très, très vite. C'est que j'ai chez moi un front page de revue française sur la télévision et c'est indiqué Jean-Pierre Allary, le bouffon numéro un de la France. C'est incroyable, je ne reviens pas encore.
Alors, on va entendre une chanteuse française qui nous a fait parvenir un bel album. Et la chanson, elle est très légère. Elle s'appelle tout simplement « Que les hommes sont fragiles ».
C'est vrai.
Et c'est vrai.
Oh oui.
Mais en même temps, c'est dit avec un ton d'humour. Alors, ça passe très bien, mais il y a peut-être des petits messages dans tout ça.
Que les hommes sont fragiles, que l'on croit virils. Ils sont si vulnérables, mais pas si redoutables. Ce ne sont que des enfants au cœur d'adolescents. Ce ne sont que des enfants au cœur d'adolescents. Certains sont des machos, d'autres sont des héros. Il y a les séducteurs, ceux qui jouent les tombeurs, les timides et les doux, les gentils et les fous. Mais au fond de leur âme, parfois coule une larme. Que les hommes sont fragiles, que l'on croit virils. Ils sont si vulnérables, mais pas si redoutables. Ce ne sont que des enfants au cœur d'adolescents. Ce ne sont que des enfants. D'autres sont romantiques. Il y a les papa poules, ceux qui sont super cool. Puis les célibataires, les vrais loups solitaires. Et malgré leurs différences, j'ose dire par avance que les hommes sont fragiles, que l'on croit virils. Ils sont si vulnérables, mais pas si redoutables. Ce ne sont que des enfants. Ce ne sont que des enfants au cœur d'adolescents. Ce ne sont que des enfants au cœur d'adolescents. Ce ne sont que des enfants au cœur d'adolescents. Vous êtes.